Tous les mois, sur Fréquence Mistral, retrouvez votre émission littéraire Des coups au cœur. Émission proposée par Anne-Marie Smith et Tiziana. L'association Littéra 05 vous propose de voyager au gré des pages et de vous évader avec les bouquins coups de cœur.
Bonjour auditeurs de Fréquence Mistral. Aujourd'hui, c'est une rencontre avec Sylvain Prudhomme qui nous réunit. Sylvain Prudhomme, que nous avions déjà invité à Gap en 2014 pour son roman « Les Grands », dont vous pouvez trouver le compte-rendu sur le site littera05.com. Eh bien, il devait venir à nouveau en décembre 2020 en compagnie de Maïlys de Kerangal. Et puis, vous savez ce qui est arrivé. Avec la Covid, la rencontre a été reportée en février 2021 et puis encore reportée en mai. Est-ce qu'elle pourra avoir lieu? Nous l'espérons vivement. Eh bien, entre-temps, Sylvain Prudhomme a fait paraître un nouveau livre qui s'appelle « Les orages », toujours publié aux éditions Gallimard. Donc là, tout à fait en début d'année. Ce livre s'appelle « Les orages ». Je vous lis la quatrième de couverture. Avec les orages, Sylvain Prudhomme explore ces moments où un être vacille, où tout à coup il est à nu. Heure de vérité, bouleversement parfois infime, presque invisible du dehors. Tourmente après lesquelles reviennent le calme, le soleil, la lumière. Eh bien, je vais vous présenter Sylvain Prudhomme aujourd'hui, ou du moins son œuvre, à partir justement d'un extrait de son dernier livre. Parce que ce livre, donc « Les orages », ce sont des nouvelles. Eh bien, j'ai eu envie de vous faire découvrir une nouvelle qui correspond exactement à ce que je viens de vous lire. Un être vacille, tout à coup il est nu, heure de vérité, bouleversement infime. Vous allez voir. Cette nouvelle s'appelle « Le taille-haie ». La lame vibre dans l'air au bout du bras affaibli. Elle fait de grands moulinets dans le ciel, tape par moments contre une branche. Le vrombissement du moteur est coupé d'un grand bang. Les muscles du vieil homme encaissent la secousse. La lame rebondit, rippe, s'en va frôler le genou dénudé. Le corps déséquilibré est un peu jeté en arrière, vacille dans la pente, se reprend, s'arc-boute à nouveau sur les jambes mal assurées, se penche en avant pour y retourner. « À mon tour, grand-père, je te relais !» La voix dans le dos du vieil homme s'efforce de rester calme. Elle hausse le ton pour se faire entendre malgré le bruit. Il fait beau, une grande et belle journée d'été. Ils sont tous les deux debout dans le talus, 100 mètres au-dessus de la mer. Le plus vieux qui tient l'engin, le plus jeune qui essaie désespérément de le lui reprendre. La pente est forte. Sous leurs pieds, la colline dévale, s'en va se jeter dans l'eau en contrebas. « Grand-père, à mon tour, tu vas te faire mal !» Les dents de métal repartent de plus belle, cherchent à nouveau matière à mâcher, affamées, pressées de mordre. Il l'appelle grand-père pour faire comme ses enfants. C'est un surnom que le vieil homme a toujours aimé. Sa tenue de travail est rudimentaire. Vieux t-shirt élimé, vieux slip, simple claquette aux pieds, orteils crispés sur le plastique pour ne pas glisser dans la pente. Les mollets ont encore maigri depuis la dernière fois, à croire que c'est par là qu'ils font. La seule partie de son corps à laquelle le régime bière-chocolat ne suffise pas. Sous les genoux, les tibias sont deux frêles béquilles patinées, lustrées de soleil à présent. D'un brun mat, seulement piqué de poils blancs qui s'entortillent, et ramassent tout ce que la lame déchiquette, éclats de branches, mâchis de feuilles et de brindilles, gouttes de sève, fourmis, perce-oreilles, gendarmes en fuite. De temps à autre, un bout d'ajonque cingle le visage. La joue brûle, le cou marque, une zébrure rouge enflamme la peau hâlée. Le vieux grimace un peu, mord le mégot depuis longtemps éteint entre ses lèvres, ne sait plus si c'est normal ou non, se fâche contre le buisson, replonge dedans plus déchaîné, engueule le jeune qui lui dit de faire gaffe. « Nom de Dieu, il y a 40 ans que je m'en sers de ce machin, tu vas quand même pas m'apprendre comment ça marche ?» Il y a 10 minutes, il était là-haut sur la terrasse, il fumait en regardant la mer. Il allait et venait entre la table de la cuisine et la vue sur la baie. Il ne se rappelait pas qu'il y avait un talus en contrebas, encore moins que le talus lui appartenait, que pendant des années il avait mis le plus grand soin à l'entretenir, à y planter hortensia et rhododendron, à les défendre contre la forêt d'ajonc qui désormais l'envahit sans partage, plus dense, plus touffue que jamais. C'est le jeune qui a voulu l'aider. C'est le jeune qui bêtement a dit « Puisque je suis là et que j'ai du temps. » Il a demandé où était le tailleuet. Il a suivi le vieil homme jusque dans l'atelier, a soulevé l'engin de l'étagère où il était posé, remis de l'essence dedans, tiré un peu sur la ficelle du lanceur pour vérifier qu'elle coulissait normalement. Il est descendu dans le talus, a tiré une fois sur la poignée, puis une deuxième, une troisième. Le moteur est parti, s'est mis à pétarader dans le silence de la baie, désordonné, teigneux. Alors, le vieux a changé d'avis. « Donne !» Cela dit en tirant pour lui arracher l'engin, manquant les découper tous les deux. « Donne, je te dis, tu crois pas que je t'ai attendu pour m'en servir ?» Le jeune a un peu résisté, s'est fait engueuler, a fini par céder en pensant « quel con d'avoir parlé de ce tailleuet !» Il a regardé le vieil homme saisir l'appareil vrombissant, le brandir devant lui allumé déjà. Il a vu son visage changer, prendre un air perdu, étonné soudain de découvrir le tailleuet si lourd, si pareil à une bestiole féroce, méchante, avec ses crachats de fumée, son ventre rouge vif, son réservoir luisant d'essence, sa lame longue comme celle d'un sabre, dentelée de chaque côté, comme le nez d'un poisson scie. Il a essayé de négocier par-dessus le vacarme du moteur, espérer que le vieil homme se ravise. « Grand-père, allez, je commence et tu prendras le relais. » Il a vu le vieux hésiter, fouiller dans sa mémoire pour tenter de se rappeler à quoi pouvait bien servir ce gros machin pétaradant et fumant. Et puis les yeux du vieux se sont arrêtés sur la manette d'accélération. Quelque chose sous son crâne a fait tilt. Les doigts se sont rappelés le contact de la gâchette en plastique, rappelés son élasticité sous les phalanges, la pression d'innombrables fois exercée dessus pour l'enfoncer. La main s'est tendue pour refaire le geste, a tâté la manette, s'est refermée dessus. D'un coup, sans nuance, à fond. L'appareil s'est cabré, la lame a démarré en rugissant. Le vieux a tendu les bras pour l'éloigner de lui, l'air de se demander quelle mouche le piquait. Il a continué d'écraser la manette sans paraître établir de lien entre la furie des lames et la commande enfoncée dans sa main. Le jeune a lu le pétillement dans ses yeux, quelque chose comme une jubilation à la vue des dents parées à tout sectionner. Une euphorie de gamin à l'idée de se ruer dans les buissons et de faire un massacre. « Donne-moi ce tailleuet, grand-père !»« Non !»« Donne-le-moi, c'est moi qui vais débroussailler !»« Non !»« Écoute-moi, grand-père, on ne va pas se disputer. Cela dit en criant pour se faire entendre, l'engin plongeait déjà dans les fourrés, sectionnant, fouaillant, tailladant, projetant de toutes parts. L'autre, irrécupérable déjà, comme parti, possédé, sourcils et visage couverts d'éclats de branches, se retournant juste le temps de le narguer d'un grand sourire. « Eh ben non, je t'écoute pas. Je fais comme tes enfants, tu vois, j'écoute rien. » 3 jours plus tôt, tout était calme. Le vieil homme était seul dans la grande maison devant la mer, en paix depuis des semaines, sans autre présence chaque jour que celle vers 11 heures de l'infirmière, celle à 15 heures d'une femme de ménage dont le ménage, d'un commun accord avec ses enfants, installé à des centaines de kilomètres de là, était surtout un prétexte à venir prendre soin de lui, l'entourer, lui cuisiner de temps à autre un plat, s'assurer qu'il avale certains jours autre chose que les invariables tablettes de chocolat achetées par pile et dévorées à petit feu, toujours la même marque, toujours le même goût, lait et riz soufflés, sans lassitude, jamais. Il y a 3 jours encore, les matins étaient identiques les uns aux autres, sans urgence, sans stress, à se lever tard, avoir parfois une silhouette adorée s'encadrer dans l'entrée, celle de M, sa dernière compagne, installée à quelques maisons de là, venue lui proposer une balade tous les deux jusqu'au bord de la mer, pieds nus dans le sable. « Allez, viens, on va marcher 1 heure ou 2 sur la plage, prendre un grand coup d'air, ça nous fera du bien. » Et puis la date de leur venue à tous les quatre s'est rapprochée. Il y a eu plusieurs coups de fil pour s'assurer qu'ils notaient bien le jour, ne seraient pas pris au dépourvu. Vers midi, il est monté dans sa voiture, a roulé jusqu'à Brest et resté 2 bonnes heures à attendre sans plus bien se rappeler quoi. Il a téléphoné à sa fille, tout là-bas encore dans le sud de la France. « Ben ça y est, je suis à l'aéroport, qu'est-ce que vous faites ?» La fille est restée aussi calme qu'elle a pu. « Quel aéroport ?»« Ben, l'aéroport de Brest. Je suis devant le terminal des arrivées. Vous êtes où ?» Elle a respiré pour encaisser le choc, ne rien montrer de son accablement. « Mais c'est demain qu'on arrive, papa. On est encore chez nous. Et de toute façon, on vient en voiture. » Elle n'a pas demandé pourquoi Brest, n'a pas soufflé qu'il n'était jamais venu en avion, ne savait pas même à quoi ressemblait l'aéroport de Brest. Il a rappelé un peu plus tard d'un bord de route où il s'était garé, à bout de force, après de longues minutes à tourner autour d'un rond-point, incapable de décider quelle route prendre pour rentrer chez lui. Il a fallu appeler M, puis une autre amie, puis les pompiers. C'était il y a 3 jours. À présent, ils sont là, réunis dans la grande maison au haut du talus. Ils se sont levés tard, ont mangé des tartines devant la mer. Il s'est gavé de confiture, presque tout un pot, comme si chaque fois que ses yeux retombaient dessus, il en réclamait à nouveau, sans se rappeler qu'il venait déjà d'y plonger 10 fois la cuillère. La veille, ils ont passé une belle journée, déjeuné vers 16 heures d'araignée de mer. « Ton plat préféré, papa ?»« Non, ma chérie. »« Ah bon, t'aimes plus ça ?» Il a ri. « Non. » « Avant, t'adorais ça ?»« Non. » Cela répété d'un ton à la fois catégorique et rieur, comme s'il conservait le désir d'être agréable, de ne pas la froisser. Voulait montrer qu'il ne lui en voulait pas de cette idée incongrue. « T'aimes plus ça, les araignées ?» Riant cette fois d'un air tendre, indulgent, comme s'il la connaissait par cœur, la savait capable parfois de ses fourvoiements, l'aimait aussi pour ces moments où elle se méprenait totalement. « Je crois pas, ma chérie. » Comme s'il n'avait pas toute sa vie fait ses délices, des fines pattes broyées entre ses molaires, comme s'il n'avait pas des dizaines de fois posé ses propres casiers pour en attraper. 2 casiers qu'on pouvait toujours voir là sur la terrasse, juste dehors, sous les fenêtres, cramé de soleil et d'intempéries, filé crevé par les années. Retournant la bestiole crustacée dans son assiette, comme si c'était la première fois qu'il en voyait une de si près, et en restait fasciné, incapable d'éprouver le moindre appétit pour ce machin énorme, inerte, débordant de toutes parts de l'assiette, hérissé de piquants, d'antennes, de pattes trop grandes pour avoir l'air vrai. Comme si l'ébahissait ce que personne d'autre à table ne voyait plus depuis longtemps, n'avait peut-être jamais vu la bizarrerie, au fond, de bouffer ça. L'étrangeté d'être prêt à empoigner pince et marteau pour attaquer par tous les défauts de la cuirasse, une cousine des tarentules et des scolopendres, se délecter d'en arracher pan par pan l'armure, s'évertuer à en atteindre le cœur pour gagner le plaisir d'y pomper quelques grammes de pulpe et de jus iodé. Ça te fait pas très envie, hein ? Éclatant franchement de rire à présent, et elle avec lui. Ben, faut quand même avouer que ça a l'air dégueulasse. Attrapant un fou rire, tous, adultes comme enfants, estomaqués et ravis à la fois de sa franchise. Stupéfié de le voir se lever son assiette à la main, marcher jusqu'à la poubelle sous le meuble de la cuisine, appuyer sur la pédale pour l'ouvrir, il laissait tranquillement glisser le grand crustacé intouché, tout entier au trou, intact, pof, un pof un peu lourd au fond du sac rempli de déchets, amorti par les pattes obligées de se replier pour passer. « Je te ferai de la viande la prochaine fois. » « Oui, un bon filet mignon poêlé à la sauge. » « Exactement. » Cela répondu d'une voix distraite, passé à autre chose, n'écoutant plus qu'à demi déjà. L'araignée oubliée. Son esprit tout entier, à la fouille du frigo à présent, les yeux happés par l'exploration des étages, la recherche d'un plan B parmi les yaourts et les sachets de parmesan. Attrapant une tablette de chocolat, hésitant, la rejetant. Une vieille plaquette de beurre demi-sel, l'examinant, la rejetant pareillement, finissant par ouvrir le congélo et y pêcher un pot de glace vanille. Attraper une cuillère à soupe et la plonger dedans, avant même d'avoir pris la peine de se rasseoir. S'en fourrer une première lampée dans la bouche, une deuxième, rugissant de volupté devant les gamins toujours attablés. Ça, c'est bon. Ravi d'entendre leur rire, de sentir leur approbation. Ça, nom de Dieu, c'est un régal. Une heure plus tard, la fille l'a surpris dans le jardin, une bombe de dégrippant à la main en train d'en pulvériser les branches d'un pommier. « Qu'est-ce que tu fais, papa ?»« Ah, qu'est-ce que je fais à ton avis ?»« Je me fais un passage. »« Un passage pour aller où ?»« Ben, un passage au milieu de toutes ces saloperies. » Il s'est redressé et lui a montré la bombe de 3 en 1, comme si c'était sa dernière trouvaille. « Tu connais ce machin ? C'est sensationnel !» Il a pointé l'aérosol vers le pommier, pressé la petite tête en plastique. Une pluie de gouttelettes se sont échappées du long bec asperceur, sont allées se répandre dans le feuillage de l'arbre. T'appuies 2, 3 fois là-dessus et pouf, plus rien. Ça te débarrasse de tout. La fille a hésité et resté sans répondre. Le père a encore pulvérisé 1 ou 2 nuages de dégrippant sur les feuilles, regardé le gras ruisseler le long des nervures, goûté doucement par terre. Il a senti la perplexité du regard posé sur lui, compris que quelque chose clochait. Il s'est vu tout d'un coup en train de passer un pommier aux 3 en 1 dans la fin d'après-midi. Mais qu'est-ce que je fous ? Il s'est tourné vers la fille et lui a souri, comme il sourit toujours en pareil cas désormais, gêné, impuissant à trouver un autre moyen de sauver la face que celui-là, l'autodérision. Non, mais je déconne complètement, c'est pas possible. Non, mais ça va pas bien là-dedans. Il a tendu l'aérosol à la fille. Ils sont restés muets, à regarder la mer en contrebas, à suivre un petit voilier sur le point de sortir, voile déjà hissée. Maintenant, l'eau s'est retirée loin. Les voiliers au mouillage sont couchés sur le sable. Le vacarme du moteur couvre tout. La lame déchiquette tout ce qu'elle rencontre, rebondit, replonge, entaille. Le jeune a cessé de réclamer l'appareil. Il a compris que le vieux ne céderait pas. Il se tient 1 mètre au-dessous de lui, dans la pente, se contente de l'assister. Il lui indique un rameau qui pointe à hauteur de visage, une liane qui enlace sa cheville. Il ramasse les branches coupées à mesure qu'elles tombent et s'enchevêtrent à ses pieds. Il les jette loin en contrebas, où les chèvres du voisin les mangeront. Ils ont pris leur rythme, et finalement, le vieux s'en sort. Et le jeune l'encourage, le guide, le porte, s'exclame à chaque branche qui cède. Et le vieux, porté par la voix du jeune, gagne en assurance. N'a plus que faire de l'épuisement, voudrait continuer toujours de manier l'engin parmi les fourrés, être à jamais celui-là qui débroussaille, découpe et lague. Dans leur dos, la marée sera bientôt basse. La baie achève de se vider, l'eau de s'en retourner tout là-bas, quelque part au milieu des flots. Les mouettes tournoient dans l'air. L'îlot coiffé de pins parasols est à sec. À perte de vue, c'est un fourmillement de rochers, un entrelac de filières par lesquelles s'écoulent les dernières poches d'eau prisonnières du relief. Les nuages vont et viennent, le soleil les transperce, puis l'instant d'après se couvre, le gris des ardoises à chaque seconde change, une pointe au loin pâlit sous un grain, un clocher de l'autre côté de la baie scintille. Demain, après-demain, il y aura d'autres marées. Peut-être un jour d'autres silhouettes pareilles aux leurs seront là dans la pente à défendre le talus contre les ajoncs. Ouh, tout le monde se foutra bien que les ajoncs prolifèrent et le talus sera repris. Ou un lotissement s'élèvera là et des nouveaux venus à la terrasse de logements flambant neufs regarderont la mer sans seulement savoir qu'autrefois, des ajoncs poussés là. Tout aura disparu, jusqu'au souvenir des ajoncs. En attendant, ce sont eux qui sont là dans la pente. Leurs silhouettes se démènent dans le matin. Les maigres guiboles luttent. Le front transpire, le t-shirt s'auréole de gris sombre. Les bras bataillent dans les fourrés, cisaillent dans la masse d'épines et de branches. Font voler tout ce qu'ils peuvent de monde en éclats. Tout le corps fatigue, mais c'est comme s'il exultait aussi, savourait, défiait beaucoup plus que les ajoncs en un dernier baroud. L'appareil s'arrête. Le vacarme d'un coup se tait. Tous les muscles du vieux tremblent. Oh putain ! Ils sont tous les deux sur les fesses dans la pente. Le vieux essaie de rire encore, mais son sang bat à tout rompre. La panique qui vient de le traverser se diffuse dans toutes les terminaisons du corps, le tétanise, le cloue. Le vieux est tombé, a glissé dans le talus avec l'engin. Le jeune a essayé de le rattraper, est tombé à son tour. Le tailleué a volé dans l'air, rebondi sur eux, sans que la lame les touche. Ils n'ont rien. Oh putain, quelle aventure ! Il se marre comme il peut. Se marre d'un air de dire au jeune : « T'as vu ce coup de bol ?» Tous les deux, ils regardent l'engin inerte, éteint, toute méchanceté ravalée, retourner se nicher dans l'énigme du moteur coupé. Plus rien qu'un bloc dérisoire de plastique et de métal. Il rit. Putain, grand-père, t'as failli nous tuer. Il rit plus fort, c'est tout leur corps qui a besoin de se délier. D'en haut, peut-être, la fille les voit, cul dans la pente tous les deux, assis l'un près de l'autre. Tout à fait comme s'ils regardaient la mer le temps d'une pause. Ce qui n'est pas faux, il la regarde, la mer. Il se serre. On l'a eu. Il crie presque à présent. Nom de Dieu, on l'a eu. Le jeune se demande quoi? Le massif d'Ajonc? Le talus? Le tailleuet? La preuve qu'ils sont toujours vivants et ne se laisseront pas abattre de sitôt? On l'a eu, ce foutu machin, dit encore une fois le vieux en agitant le bras en direction du coin de talus d'où ils ont glissé. Et puis le silence revient. C'est l'heure de déjeuner déjà. Le jeune ramasse le tailleuet roulé en contrebas. Il examine, un peu cabossé, les poussettes, libère un bout de branche pris dans la lame. Et tous les deux, ils remontent. Voilà, c'était donc une nouvelle intitulée « Le tailleuet », extrait donc du livre de Sylvain Prudhomme « Les orages » paru chez Gallimard en 2021. Merci pour votre écoute. À bientôt.
Lord, I've done so much wrong, but please give me strength to care.